Tech Café, c'est votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Le Mobile World Congress, l'événement appelé MWC, vous le savez, hein, la grande messe annuelle de la technologie en mobilité, a été annulée en raison des alertes liées au coronavirus. Guillaume et Cassim en avaient parlé dans le précédent épisode. Les marques présentent donc, en dehors de tout événement, leurs nouveautés qu'elles auraient dû y diffuser. Sony, HTC, smartphone pliant, on vous fait notre sélection de ce qui était remarquable. Nous parlerons également de plusieurs sujets à caractère politique dans lesquels la tech joue un rôle clé. Désinformation, deepfakes, prise de position dans la guerre commerciale entre Oracle et Google, c'est des sujets dont on a l'habitude de parler, dont on va reparler dans cet épisode à l'aune de nouvelles informations. Et puis nous conclurons enfin avec une section divertissement vidéoludique où nous parlerons notamment de la production de jeux et de contenus type séries télé qui ont un impact sur la façon de travailler pour les studios amoureux de Star Wars. Vous allez être servis. Nos actualités en vrac concluront l'épisode et bien entendu nos bonus. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui, non content de préparer le contenu éditorial de Tech Café semaine après semaine, a su très bien prendre les commandes intégrales du podcast la semaine dernière. C'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Ça va très bien. On a fait ce qu'on a pu hein, tous les deux.
Ouais, tu t'en tires toujours très très bien avec les retours que je vois en tout cas, et puis ce que j'écoute, parce que ce sont les rares épisodes que j'écoute de Tech Café que j'écoute et que je découvre, donc c'est évidemment un grand plaisir. Tu vois, je me mets à la place de l'auditeur quand c'est comme ça, et quand même, il faut reconnaître qu'ils ont beaucoup de chance de nous entendre, hein, Guillaume, et d'entendre tout ce qu'on peut relayer. Et une manière pour eux de le faire savoir, c'est de déposer un avis sur Apple Podcast. Il y a Sullivan, par exemple, qui a été parmi les plus récents là, à déposer un commentaire sur Apple Podcast. Il a écrit un grand bravo avec 5 étoiles et il dit « Bonjour à toute l'équipe de Tech Café, tout simplement un grand bravo pour vos podcasts incroyables. J'aime votre vision, votre humour et évidemment la qualité pertinente des informations qui y sont transmises, ainsi que votre sens critique qui incite au débat et à la réflexion. Envisagez-vous des rencontres avec des auditeurs lors de vos déplacements? Je vous encourage à continuer et à persévérer dans cette superbe aventure. » Eh ben pourquoi pas, Sullivan, il faudra étudier ça. Il faudrait déjà que je lance quelque chose, même sur Amiens, pour rassembler les personnes qui habiterait pas trop loin de là où je suis. Ce serait avec grand plaisir qu'on pourrait aller boire une bière et puis qui sait, peut-être d'autres occasions pour se rencontrer. Tech Café est disponible en financement participatif sur Patreon, donc si jamais vous voulez aller plus loin que l'avis sur Apple Podcast, vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé et puis contribuer avec des toutes petites sommes à la sortie de chaque épisode. Merci à toutes elles et à tous ceux qui ont choisi de soutenir l'émission à partir d'un euro par semaine. Alors je dis un euro, c'est un équivalent parce qu'aujourd'hui c'est en dollars, mais bientôt cette année on pourra passer la page en euros, Patreon nous l'a promis. Merci en particulier à Jérémy Dubreuil, Marc Kubels-Pérez, Alexandre Nouvelle, Franck Topalian et à Psylopathe, qui a renouvelé son engagement sans autre forme de procès. Guillaume, on attaque donc avec nos news. Et puis j'ai relevé moi une petite news à chaud, puisqu'il faut dire que l'actu à chaud n'était pas transcendante ces dernières heures et ces derniers jours. Donc évidemment, on a tous les sujets qu'on va vous relayer, que j'ai un petit peu préannoncé dans l'intro, mais j'ai vu passer cette information relative, encore une fois, hein, on en parle décidément à chaque épisode, du coronavirus, parce qu'il y a eu carrément une espèce de campagne de désinformation, donc des fake news qui ont été diffusées par email en Ukraine. Ce sont des personnes qui se sont fait passer pour le ministère de la Santé. Donc c'était du phishing, mais le but n'était pas d'envoyer les gens cliquer sur un lien et donner leurs informations bancaires, par exemple, mais tout simplement à leur faire peur. Donc c'est des messages qui ont été envoyés à toute la liste de contacts du ministère. Donc il y a eu une forme de hacking, hein. Il faudrait essayer de creuser un petit peu comment ça a pu être fait. La teneur des emails, c'était de dire qu'il y avait 5 patients qui étaient affectés et qui étaient confirmés en Ukraine. Alors en plus, c'est tombé à un moment où il y a un avion qui rapatriait des citoyens ukrainiens depuis la Chine. Donc, il atterrissait en Ukraine au moment, en gros, où ont été diffusés ces emails. Et juste après l'atterrissage de l'avion, les bus qui emmenaient les personnes à l'hôpital ont carrément été bloqués par une foule en délire, par des émeutiers qui ont été jusqu'à détruire les vitres des véhicules. C'est un exemple qui montre à quel point le coronavirus est un sujet quand même qui excite un petit peu le grand public. Alors, on a des raisons d'être inquiet? Est-ce qu'on a des raisons de se soulever en tant que foule par rapport à des événements comme ça? Je ne sais pas, mais c'est un moyen aussi de montrer à quel point la tech peut être une sorte d'étincelle qui arrive à enflammer les sujets d'actualité dans des populations. Évidemment, le gouvernement a essayé après de remettre un petit peu d'ordre en remettant des démentis, en diffusant des démentis et même en dépêchant le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sur place à l'hôpital. Mais bon, évidemment, quand ce genre d'événement est parti, c'est un peu compliqué de le récupérer, de le rattraper. Guillaume, est-ce que tu crois que le pire, est-ce qu'on est dans le pic de cette crise de virus, de coronavirus, ou est-ce que tu crois qu'on va encore avoir l'occasion dans les futurs épisodes de Tech Café d'en reparler?
Oui, oui, c'est clair qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, ça, je pense que c'est net. En fait, c'est vrai que c'est assez inquiétant de voir ça parce que quand même, c'était 5 cas, quoi. Enfin, voilà, la fake news, c'était 5 cas. Alors qu'il n'y a pas de cas en Ukraine actuellement. Cela dit, il est très fortement probable que dans un futur proche, il y ait des cas en Ukraine parce que, en fait, on est vraiment au bord de la pandémie, quoi. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne parle pas de pandémie parce qu'il y a très peu de cas hors Chine, mais comparativement, cela dit, c'est vrai que là, ça commence à partir en sucette en Italie. Bon. Moi, ce que je vois arriver, c'est que globalement, on va pas arriver à contenir le virus et que il va se diffuser et que bientôt, il sera partout sur toute la planète. Ça va être très très compliqué, quoi. Cela dit, ça c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que très probablement, ben oui, le virus va se diffuser et puis on va pas arriver à le contenir. Et donc, il y en aura en Ukraine. Je sais pas ce qui va se passer quand il y en aura vraiment en Ukraine, du coup. Mais faut pas non plus paniquer, hein, parce que le coronavirus. C'est pas la peste bubonique, quoi, tu vois, c'est pas non plus un truc aussi dangereux que ça, je pense. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un virus qui déjà a des symptômes qui sont très peu spécifiques, quoi, tu vois. C'est un petit peu comme le rhume ou la grippe, en fait, hein, c'est un petit peu la même chose. Et donc on connaît pas exactement le nombre de gens qui sont porteurs du virus. Donc ça veut dire que si on regarde les chiffres actuellement, il y a 2 à 3% de létalité, c'est-à-dire de mort parmi les patients infectés, qu'on connaît. Mais il y en a sans doute beaucoup qu'on ne connaît pas. En fait, le virus se balade, à mon avis, tranquillou, sans qu'on le sache, depuis plus longtemps que ce qu'on imagine, et probablement dans des endroits où on s'y attend pas. Ce qui veut dire que, en fait, la létalité réelle, elle est très probablement en dessous de 2 à 3%, voire nettement en dessous. Et en plus, j'ai pu regarder quelques chiffres, bon, c'est des chiffres qui datent d'il y a 8 jours, mais bon, qui regardaient l'âge, en fait, des gens qui meurent de ce virus, et 80% des morts de ce virus ont plus de 60 ans. Donc c'est un virus qui, globalement, évidemment, s'attaque à tout le monde, qui, dans l'immense majorité des cas, donne des maladies qui sont des pathologies qui ne sont pas graves, comparables à un gros rhume, une grippe, et qui, parfois, tournent en pneumonie un petit peu plus sévère, et de temps en temps, en général sur des gens plus âgés et probablement plus faibles, donnent des problèmes. Alors bon, qui peuvent amener à la mort. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que pour le moment, le coronavirus, ça risque de devenir une nouvelle maladie saisonnière d'ici quelques mois, quoi. Un petit peu comme le H1N1, hein, par exemple, tu vois, qui est devenu une nouvelle maladie, quoi. Et puis, ça me paraît à peu près inévitable. C'est pas pour ça qu'il faut, qu'il faut se donner l'extrême onction tout de suite, ouais, courir faire son testament, quoi, tu vois. À mon avis, le virus, il est pas aussi dangereux que ça. C'est quand même sérieux parce que c'est une nouvelle maladie saisonnière qui va probablement générer une nouvelle demande pour des lits d'hôpitaux qu'on n'a pas vraiment déjà, surtout en période
hivernale. On a déjà des problèmes de disponibilité.
Donc ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est moins le virus et son aspect mortel que le bordel que ça va foutre dans les services hospitaliers s'il y a une nouvelle épidémie en plus des grippes saisonnières, etc. Ça va faire encore plus de trucs. Et bon, Dieu sait si notre système hospitalier, il est déjà au bord de la crise de nerfs, beaucoup bien au-delà du bord, en fait. Donc, il y a plus ça qui m'inquiète finalement que le virus qui peut tuer, comme une épidémie. C'est pas Ebola, quoi. Hein, faut arrêter.
On a tous en tête les images, tu sais, les peintures du Moyen-Âge ou des périodes même d'ailleurs plus récentes, mais où tu as des maladies qui déciment les gens, tu les vois dans la rue. On n'en est pas là. On peut peut-être garder aussi à l'esprit la grippe saisonnière. Donc là, on n'est pas dans le coronavirus. C'est tech café, hein. C'est pas un tech santé, c'est pas un podcast sur la santé. On va revenir très très vite dans le cœur de la tech. Mais juste pour rappeler, la grippe saisonnière, c'est 44 morts depuis novembre. Donc la grippe classique entre guillemets quoi. Donc là aussi il faut mettre en perspective les chiffres qu'on nous annonce à l'échelle des différents pays, et évidemment c'est inquiétant parce qu'on voit le virus se répandre. Maintenant c'est vrai que quand on voit les mouvements de foule qu'il peut y avoir de manière localisée, par exemple en Italie hein, où il y a eu deux cas qui ont été confirmés, où les gens se ruent sur les magasins, le problème finalement il est pas uniquement lié au virus, mais il est lié à l'être humain et son organisation en société qui est pas du tout adaptée et qui en plus est réchauffé par ce que peut être amené par les réseaux sociaux et par la viralité des informations de la tech quoi.
Ouais. Bah alors c'est, par contre il faut quand même, c'est quand même sérieux, enfin je veux dire, il faut quand même garder un œil dessus parce que ce genre de virus ça peut muter, et si ça mute et que ça devient plus dangereux, là ce sera un vrai souci. Dans l'état actuel des connaissances qu'on a, ce virus n'est pas extrêmement dangereux. Il est juste à considérer avec sérieux, quoi. Il faut pas non plus, je pense qu'il est plus dangereux, en fait, de se surexciter, de se marcher dessus pour aller acheter des...
Oui, c'est ça, à ce stade, en tout cas.
À ce stade, ouais, je pense que c'est plus dangereux de se marcher dessus pour aller acheter des masques que de choper les virus lui-même, quoi.
On est d'accord.
Mais bon, après, voilà, c'est à un instant T, puisque tout, tu vois, toutes les informations qu'on a changent tout le temps, donc bon. À voir.
C'est là aussi où, et on va peut-être conclure là-dessus, je trouve que, par exemple, il y a Google, par exemple, je trouve qu'on peut peut-être aussi souligner le fait que, moi, j'aime beaucoup le moteur de recherche, en fait, Google, maintenant. J'ai essayé de me dégoogliser de plein de services, j'y suis plus ou moins arrivé, je reviendrai en détail dessus quand j'aurai un petit peu plus de temps. Mais sur le moteur de recherche, je me suis fait une opinion qui, depuis pas mal de temps maintenant, ne bouge plus. Tu sais que j'avais essayé un petit peu Quant, DuckDuckGo, Bing, même si les résultats de Quant et de Bing pardon sont assez proches puisque il y a des ressources qui sont utilisées dans un cas pour l'autre. Mais du côté de Google, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que bon, t'as les news. Hein, quand tu tapes coronavirus sur Google, tu as des news, de nouveaux cas en France, le bilan en Italie, etc. Un premier cas confirmé en Algérie. Donc des informations. Bon, ça c'est la presse hein, qui est relayée. Mais tu as aussi quelques éléments d'information qui sont pas non plus alarmants, et tu as des éléments hyper simples et concrets, se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau ou à savon. Alors tout ça est à mettre en perspective puisque je suis pas encore une fois spécialiste de la santé et de la médecine, mais pareil, les résultats derrière sont plutôt ne nous envoient pas sur Doctissimo tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Ça a l'air d'être des sources d'information plutôt fiables, et j'aime bien voir que les acteurs de la tech comme Google font plutôt proprement les choses pour l'instant, de la manière de hiérarchiser l'importance de l'information qui ressort quand on fait ce type de recherche. C'est à surveiller évidemment dans le temps. Bon Guillaume, on va aller retrousser nos manches et se plonger dans les news qu'aiment tant nos auditeurs, celles où on aborde les smartphones, où on fait des surenchères de spécifications, où on explique à quel point les écrans sont tous plus performants les uns que les autres, et à commencer par Sony. Alors ça fait partie de ces produits qui auraient dû être annoncés au Mobile World Congress, et donc je reprends le titre de la rubrique que tu as préparée qui est presque MWC, et on va donc commencer avec quelques smartphones qui redéfinissent, enfin ou qui définissent la nouvelle gamme de smartphones de Sony, les Xperia. Alors il y a le Xperia 1 Mark II, le Xperia 10 Mark II et le Xperia Pro. Donc ça rappelle un petit peu les noms de certains produits d'appareils photo notamment. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut relever de ces smartphones Xperia? Est-ce qu'il va falloir se jeter dessus ou pas?
On peut relever qu'ils ont des noms complètement nuls déjà, hein, parce que c'est quand même marqué les Xperia 1, 2, 10, 2. Bon, oui, ouais. C'est pas grave.
Ça me rappelle, il y a des appareils photo compacts de chez Sony qui ont un peu la même nomenclature de nommage et qui montrent un petit peu les générations. Je sais plus comment s'appellent les smartphones, les appareils photo compacts Pro.
C'est pas les compact, oui, c'est pas les Alpha. Ouais.
Oui, Alpha peut-être. Alors Alpha, je crois que c'est la gamme.
C'est
la gamme de réflexe. Et il y a aussi, il me semble, une gamme de compact. Et je vais aller regarder en même temps que tu dérouleras tes news.
Ouais,
il y a des séries de catégories comme ça, de génération sur l'autre, qui sont libellées comme ça. Donc je trouve ça plutôt cohérent quand on connaît la gamme Sony. Mais...
c'est ça. Donc passons donc au 1, 2. Donc c'est un écran en 21/9. Donc Sony persiste avec ses écrans très très longs, très très fins, en 6 pouces 5, en 4K HDR OLED avec du son Dolby Atmos, un Snapdragon 865, 8Go de RAM, la 5G, triple capteur photo de Zeiss avec T-Star. T-Star, c'est une sorte de traitement anti-réflexion, avec 3 focales et donc des bonnes ouvertures. Il y a aussi un capteur 3D Time of Flight pour un autofocus de 20 images par seconde, même en basse lumière. Il y a le suivi automatique des yeux des gens, mais aussi de ton chat. Ça, c'est très, très important.
Très important.
Eh oui, pour bien prendre ton chat. Et puis, il y a une prise jack. Ça, c'est fou. Et il y a aussi la compatibilité du son 3D. Bon, ils insistent beaucoup sur le partage de technologies entre la série Alpha, justement, d'appareils photo, donc la photo pro réflexe, comme tu disais, et leurs Xperia. Alors, même si c'est des réflexes qui sont mirrorless maintenant, il me semble, mais bon. Donc le Pro a la même interface utilisateur d'ailleurs que le Alpha, et ils marketent leur téléphone vraiment pour les créateurs de l'image, de la photo, ouais, du cinéma, voilà. Le Pro a d'ailleurs, ça c'est vrai que c'est assez unique il me semble, une entrée HDMI, donc ça le transforme en moniteur, donc tu peux le brancher sur une caméra, ça te fait moniteur de la caméra, c'est assez marrant.
Pourquoi
c'est
pas une...
Des premiers trucs que je vois, c'est enfin, la première fois que je vois ça. Il y a aussi le 10-2. Alors 10-2, lui, c'est un milieu de gamme qui est aussi OLED Full HD, un peu plus compact, résistant à l'eau IP65, il a un Snapdragon 665. C'est un smartphone vraiment intéressant parce qu'il coûte que 369 €, parce qu'il y a quand même un grand écart entre le 10-2 et le 1-2, parce que le 1-2, lui, sera disponible, à mon avis, c'est là que ça coince, hein, à partir de 1 200 €. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est trop. En plus, une partie de cette hausse de prix est probablement due à l'écran 4K, qui est parfaitement superflu sur un téléphone. Je pense que c'est même complètement idiot. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Sony fait cette erreur, hein, puisqu'en 2017, ils avaient sorti le XZ Premium, qui était à l'époque sorti à 800 $, et qui, comparé aux autres téléphones de la gamme, était plus cher, plus lourd, moins endurant, et qu'il avait été assez unanimement jugé que c'était un péché d'orgueil. Pour Sony, sur 5 pouces 5, l'écran 4K est plus cher, il consomme plus, hein, il tire beaucoup plus sur les composants et la RAM, et la différence est complètement imperceptible. Alors, l'écran à l'époque était à 5.5, aujourd'hui, bon, les composants ont évolué, donc forcément ça va tirer un peu moins, mais nos yeux, eux, ils sont toujours les mêmes, hein, et moi, j'ai du 1080p sur 5 pouces 9, et j'ai jamais vu un pixel, hein, perso, donc... Voilà, le 1-2, oui, j'en ris encore, est un 6.5 pouces, d'accord, mais bon, c'est en 21/9, et moi, je suis en 16/9, ce qui veut dire que globalement, la louche doit être à peu près à la même surface, et donc, en 4K, on sera une densité de pixels 4 fois plus importante que la mienne, et bon, honnêtement, sauf à faire de la VR à gogo, ça n'a absolument aucun intérêt autre que de balancer de la caractéristique et booster les prix. Donc, je trouve que c'est pas super intéressant, moi, plus intéressant pour moi, il y a le côté OLED HDR de l'écran, bon, pour le coup, là, si c'est un écran 4K, ça, c'est pas très utile, par contre, OLED HDR, c'est quand même sympa. Il y a aussi le son 3D qui fait aussi de l'upscaling sonore, c'est-à-dire que tu lui mets une source bon, MP3 classique, on va dire, et puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc upscaler l'onde, donc il va adoucir l'onde pour faire comme si elle était en 96, tu vois, en 96 Hz, par exemple, ce genre de choses. Moi, je suis assez curieux d'écouter les sons 3D et ce type d'upscaling. Mais bon, honnêtement, cette fuite en avant des prix me paraît complètement farfelue. Franchement, quel est le pourcentage de gens sur la population générale qui mettent plus de 500 balles dans un téléphone en vrai?
Après, ça peut dépendre sans doute d'utilisation bien spécifique, mais comment est-ce qu'on peut, en tant que Sony, se démarquer dans un marché tel que celui-ci avec cette proposition-là? En fait, on en revient déjà à la réflexion de fond qui est de dire, moi, je persiste et signe dans le fait que les smartphones ne font plus rêver personne. Oui, il y a des appareils qui sortent qui sont sympas. Évidemment, les pliants nous redonnent un petit peu de baume au cœur quand on parle des news de smartphones, mais en dehors de ça, c'est quand même, je trouve, assez pénible à suivre l'actualité des smartphones. Et quand tu es Sony avec une telle marque, un tel historique et une telle force de frappe, comment est-ce que on peut imaginer que Sony persiste et signe dans ces tailles de ces form factors, donc ces rapports de taille d'écran improbables? Oui, ok, ça se démarque de la concurrence, mais j'ai pas l'impression que ce soit un synonyme de succès incroyable. Il y a des amoureux de Sony, mais est-ce qu'ils sont si nombreux que ça qu'ils permettent à Sony d'engranger des bénéfices de fou? Et est-ce que un prix pareil peut se justifier avec, comme tu le dis, une qualité d'écran qui sera faiblement utilisable dans la réalité, quoi. Pas facile.
Non, de toute façon, moi, je vais te dire, j'ai un Mate 9. Mate 9, donc c'est que le truc qui commence un petit peu à dater maintenant. Hein.
Il date de quelle année, Guillaume?
Oh, bah, il a trois ans, ouais. Trois bonnes années. Et bah, bon, bah, très honnêtement, il me suffit largement, en fait.
T'as absolument aucune raison de le changer.
Ah,
peut-être la batterie qui est un peu fatiguée, peut-être.
Absolument pas. Il tient encore deux jours. Donc, si tu veux, moi, je vois pas pourquoi je le changerais. Il y aurait déjà raison. Hein. Je pourrais avoir un meilleur appareil photo, c'est pas faux. Bon, au niveau de la vitesse, au niveau de l'usage courant, si tu veux, j'ai pas suffisamment de raisons d'en changer. Et c'est très compliqué maintenant de changer. Le seul truc qui pourrait me faire changer, c'est un smartphone pliant. Que ce soit pour être plus compact, parce que c'est quand même assez pratique, ou que ce soit pour avoir plus de surface écran, oui, là, c'est une véritable valeur ajoutée, tu vois. Mais pour moi, passer un écran 4K, franchement, je vois pas trop le truc, quoi. Ou même, tu sais, avoir ce type de qualité d'écran. Enfin, je veux dire, j'utilise mon téléphone dans plein de cas différents, et souvent il y a de la lumière, enfin je veux dire tu peux pas admirer, tu vois, toujours cet écran comme il faut, quoi. Donc même le HDR, c'est pas évident que ce soit toujours idéal. Bon, voilà, moi perso, c'est vrai que changer de téléphone mobile pour un autre téléphone mobile avec le même form factor ou à peu près, ça a pas énormément d'intérêt, à moins que le mien casse, quoi.
Ouais, bien sûr, et auquel cas tu te poseras la question. Et c'est curieux parce que j'avais en tête que le fait que Sony se désengageait un petit peu des smartphones, donc bon, il continue. Moi j'ai un petit peu de mal à y voir clair, en tout cas dans la stratégie des smartphones pour Sony. Ben voilà, en tout cas c'est des choses qui auraient été relayées dans le MWC et qu'on vous relaie puisqu'ils ont été diffusés un petit peu à côté. Mais c'est pas les seuls produits qui ont été annoncés, et t'as toute une flopée de petits smartphones qu'on aurait pu voir comme ça dans les stands du Mobile World Congress, qu'on voit fleurir dans les news tech. Alors quels sont-ils? Quels sont ceux qui t'ont sauté aux yeux, Guillaume?
Ouais, exactement comme si on était au MWC, un petit tunnel d'annonce de nouveaux téléphones. Donc il y a le Oppo Find X2 qui annonce un terminal 4K et 120 Hz sans trou. Décidément. Alors c'est très bien pour le sans trou. 3K, je sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être 3000 pixels, donc c'est à peine plus sensé que 4K sur du 6 pouces à mon sens, mais bon. Quant au 120 Hz, vous savez ce que
on
je
en
pense.
A déjà parlé.
Je serais curieux de savoir, si vous faites un test à grande échelle, combien de gens seraient discriminés en double aveugle à un téléphone 120 Hz dans les photos 60. Oh. Écoute,
oui, t'as raison, il y a probablement peu de monde, mais c'est le cas aussi de beaucoup de caractéristiques d'écran. Combien il y en a qui seraient vraiment en double aveugle, capables de voir les différences de résolution? Ça me rappelle ce qu'on avait vu à l'époque sur l'iPhone XR, qui avait une résolution qui était moins bonne que plein de smartphones OLED de super qualité de dalle. Et les gens voient,
peut-être.
Bon, tu vois, le grand public a vraiment du mal là-dessus. Mais après, peut-être que les experts smartphones voient une différence.
Oui, il y a toujours des gens qui verront une différence. Bah, écoute, pas. Tant mieux pour eux, en tous les cas. Plus d'infos le 6 mars pour le Find X2. Et dans la série Mystère, on a le Vivo Apex 2020 qui est annoncé pour vendredi, donc dommage, on n'est pas loin, on vous en dira plus la semaine prochaine. Sinon, il y a le Realme X50 qui est plus intéressant, je trouve, puisque bon, il a un écran 90 Hz, on est d'accord, mais surtout, il a un Snapdragon 865 et du Wi-Fi 6, une recharge ultra rapide, et la 5G pour 600 euros. Donc c'est un deal intéressant, c'est des caractéristiques de flagship pour la moitié du prix, en fait, puisque maintenant, ça y est, le flagship, c'est 1200 balles. Avec un écran 6 pouces 44 en point sonné, et tu peux recharger ton smartphone en 35 minutes complètement. Donc voilà, profitez de ça, et la 5G pour un prix raisonnable, je pense que c'est assez crédible. Donc ouais, c'est
peut-être la proposition qui est la plus sérieuse, la plus, tu vois, c'est les autres délirent un peu sur des enchères de caractéristiques qui sont pas forcément réalistes. Là, on a des promesses de performance plutôt cool avec la 5G, le tout à 600 balles, c'est cool, effectivement.
Ouais, je trouve que c'est assez cool. Écoute, la 5G, de toute façon, tout le monde va y arriver, même HTC apparemment, puisque HTC reviendrait dans le business des téléphones. C'est ce qu'a annoncé Yves Maître, hein, une série de terminaux 5G qui seraient prêts pour 2020. Bon, ça, c'est à voir, on n'a pas plus d'infos pour le moment.
C'est lequel dans la gamme? Oui, c'est le Apex qui promet d'avoir une surface d'affichage assez incroyable d'après les images qui teasent, avec une surface qui déborde de partout. On verra ce que ça donne. C'est toujours la surenchère là-dessus. Allez, des petites nouvelles du Samsung Galaxy Z Flip, qui est le smartphone qui a commencé à faire l'objet des gros titres depuis quelques jours maintenant, et dont vous avez déjà parlé avec Kassim, puisque on commence à voir un petit peu les tests. Alors, à quel point est-ce qu'on peut espérer que ce smartphone soit résistant? Il y a iFixit qui s'est un petit peu retroussé les manches sur le sujet, Guillaume.
Ouais, vous avez acheté à prix d'or un smartphone pliant, vous le couvez comme une mère inquiète, vous avez raison. cette première génération est fragile, bon, on connaissait les problèmes du Fold, aujourd'hui c'est au tour du Flip d'être analysé, et donc il y a deux points faibles sur le terminal. D'après iFixit, la charnière c'est un nid à poussière déjà, donc ils ont mis en contact le téléphone avec beaucoup, beaucoup de poussière violette, et en le démontant, il n'y a pas d'erreur, les petites brossettes qui étaient mises en évidence par Samsung comme ça pour protéger les mécanismes ont une efficacité vraiment très limitée. Le Flip n'est pas du tout dust resistant. Bon, vous étiez prévenu, mais là c'est vrai que clairement ça l'est pas. Et il y a autre point de friction, le verre. Donc on a plus d'infos, ça y est, sur l'écran du Flip. Donc il y a bien une couche de verre. C'est Shot en fait qui produit le verre pour le téléphone, et il y a une couche supplémentaire de plastique par-dessus. Donc, le problème est simple en fait, c'est que pour qu'un verre plie, c'est comme pour tout. le métal, le bois, voilà, tu prends une planche en bois, elle n'est pas très flexible en général, hein, mais si tu prends une feuille de bois très très fine, oui, ça commence à devenir d'autant plus flexible qu'elle est fine. En fait, c'est pareil pour le verre. La couche du Galaxy Z Flip ne fait que 30 microns, donc elle est extrêmement fine, et ça amène un autre problème, parce que le verre, dans l'idéal, ça casse pas. Enfin, si tu le mets coup de marteau, ça va casser, mais sinon, ça casse pas, ça reste ultra stable dans le temps. Et même si tu le plies, tu peux le plier pendant l'éternité, ça bougera pas. Sauf que tous les verres sont sensibles aux petits défauts. Donc s'il y a une petite craquelure, même invisible à l'œil nu, hein, elle va concentrer les contraintes, et la microcassure va se propager à travers le verre à la faveur des chocs, des chauds froids, etc. Bref, des contraintes en fait qu'elle peut subir, et ça peut finir par casser le verre. Donc c'est pour ça que certains verres cassent spontanément sans qu'on les touche. C'est pas des fantômes, hein, si t'as un verre comme ça sur une table qui pète tout seul, c'est pas un fantôme, hein, c'est juste des années de chauds froids, de petits chocs, de la vaisselle, que ça, qui ont érodé le verre de l'intérieur en quelque sorte. Ben oui, le lave-vaisselle, non mais tous les micro-chocs, tu sais, ça peut vraiment concentrer les contraintes et voilà, c'est complètement aléatoire.
Ah oui, j'étais encore avec la tête, j'avais encore en tête le smartphone, donc je me disais, mais qu'est-ce qui prend à Guillaume de mettre son smartphone à lave-vaisselle? J'avais pas compris. D'accord, donc tu faisais l'analogie avec les matériaux en verre, le verre qu'on utilise pour boire tous les jours.
Donc désolé, moi, c'est peut-être pas clair, effectivement.
Si, c'est moi qui...
Mais bon, imagine-moi donc sur le Galaxy Flip, donc on plie le verre, justement... Et les contraintes sont donc très importantes là où il y a la pliure. Et donc la moindre micro-égratignure pourrait très vite se propager si amplifiée et casser tout simplement le verre. D'où la nécessité d'une protection d'écran permanente pour que justement on évite toutes ces petites abrasions. Et en fait, ce qui a été égratigné la semaine dernière, là, c'est pas dans la vidéo, c'était pas le verre, c'était la couche qui était dessus. Et alors, s'il avait égratigné le verre, du reste, il serait peut-être parti en morceaux en fait. D'où la question, faut-il du verre, alors qu'il est ultra fragile, finalement, et nécessite une protection qui, dans les faits, revient à peu près à avoir un écran en plastique. D'ailleurs, Huawei a annoncé que son Mate XS, qui n'est pas que pour elle, avec un nouveau écran polyimide, donc plastique, mais plus résistant. Il y a aussi un nouveau CPU, d'ailleurs, au passage, et un petit peu plus cher, puisqu'il est de $2,500. Donc c'est vraiment, pour les grosses bourses. C'est tout simplement, sans mauvais jeu de mots bien entendu, c'est tout simplement le problème d'être au début d'un gros changement technologique en fait, hein. Les générations un smartphone pliant, ben, font un peu comme elles peuvent, mais bon, ça va changer puisqu'il y a Corning qui fait déjà du verre flexible, hein, et qui fait du verre à 20 microns, et ils annoncent, Corning donc, que d'ici 2 ans la protection pourrait s'avérer inutile. Alors comment, on ne sait pas encore vraiment, peut-être par de nouveaux traitements chimiques du verre ou bien des nouveaux verres tout simplement, puisque le terme verre en fait c'est extrêmement large, ça désigne une classe énorme de matériaux, c'est des matériaux amorphes, mais en fait le verre qu'on connaît c'est un verre silicaté, donc en fait on le fait avec du silicium, de la silice, du sable en gros, du sable. Mais on peut faire du verre avec plein de trucs, avec d'autres choses, comme des métaux par exemple. Donc en fait, on est au début finalement d'une nouvelle technologie, probablement de nouvelles productions de verre aussi. Donc c'est hyper intéressant, c'est très intéressant à suivre, surtout pour moi qui n'ai pas acheté le Z Flip et qui n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mon téléphone. Désolé.
Peut-être que tu te tourneras vers un Mate, effectivement, parce qu'on sait que le form factor te plaît beaucoup plus, Guillaume.
Oui, mais moi j'aime bien le Mate.
Quand je regarde ces histoires de matériaux, de surface d'écran pour des smartphones pliants, je me suis toujours interrogé sur cette espèce de Saint Graal du verre. Je m'explique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il va falloir avoir du verre pour avoir le matériau idéal et qu'il soit pliant. Et pourtant, je m'interroge, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas plutôt en train de rechercher un matériau plastique qui aurait la même texture que le verre et qui aurait les propriétés pliantes. D'ailleurs, dans mon esprit, je t'avoue que la catégorie de ce qu'on appelle verre et la catégorie de ce qu'on appelle les plastiques, qui peut être une question bête au départ, n'est pas forcément évidente à mes yeux dans la nature même de la
composition. C'est pas du tout évident, parce que la réponse c'est chimique. C'est-à-dire qu'un verre, c'est un composé inorganique qui est amorphe. C'est-à-dire qu'il a une structure qui est non cristalline. Donc il y a une structure qui est organisée mais non cristalline, donc qui est plus proche d'une sorte de solide figé. C'est une sorte de liquide figé, le verre. Les plastiques, par contre, c'est des composés organiques. Donc c'est fait avec des hydrocarbures en général, donc ça a d'autres propriétés, et souvent c'est fait par polymérisation, et ça a la propriété d'être plastique, c'est-à-dire plutôt mou. C'est-à-dire on peut les c'est quand tu le chauffes, ça ramollit. Tu vois, on peut. C'est pour ça que c'est bien le plastique. Hein. Le plastique, c'est fantastique parce
que
c'est
mou. Il est plastique très dur, Guillaume, qui sont peut-être fragiles dans le temps, mais il y a plein de plastiques, de surfaces, d'objets qu'on a autour de nous. Je suis sûr que vous en avez sur votre bureau, mais
les plastiques sont durs. Hein. Bah, il y a plein de trucs. Hein. Les verres, en général, c'est des choses qui sont très stables, très dures, qui sont dures, stables et transparents. Donc, enfin. La plupart des verres sont transparents dans le visible. Et donc, évidemment, la transparence, c'est un point central. Les verres sont beaucoup plus transparents que beaucoup de plastique. Il y a aussi ça. Donc, c'est beaucoup plus clair. Tu auras un écran beaucoup plus clair avec du verre, déjà. Donc, ça dépend évidemment des composés plastiques que tu peux voir. Les plastiques, le problème des plastiques, c'est qu'en général, ils ont une dureté qui est très faible. Parce que chimiquement, ils sont pas composés pareil, en fait. Hein. Les plastiques, c'est des chaînes de polymères. C'est bien quand sûr. Donc il y a des indices comme ça, il y a des échelles de dureté. Et la dureté du plastique, en général, elle est relativement faible. Celle du verre, elle peut être 5 fois plus importante. Donc c'est mieux, évidemment, ça résiste mieux au truc, ça résiste mieux aux égratignures, etc., etc. Parce que le verre, justement, chimiquement, il a beau ne pas être cristallin, il a quand même une structure, une cohésion atomique très importante.
Là, je touche l'écran de mon ordinateur là pendant que j'enregistre. C'est du plastique. Je me dis évidemment, il est pas fait pour être tactile. Donc, si je le manipulais tous les jours, il y aurait peut-être plein de soucis. Mais je me dis
mais,
peut-être.
Mais par
qu'on
contre,
a plus...
tu as complètement raison. Il est tout à fait possible qu'on trouve un jour une manière de fabriquer un composé hybride soit un peu des deux, soit un verre différent, soit un plastique différent, qui puisse être suffisamment résistant pour remplacer, pour avoir le meilleur des deux mondes. De toute façon, c'est ce que recherchent, je pense, les chimistes en ce moment même.
Ouais, ça doit être un de leurs champs de recherche sur le sujet, effectivement. Bon, on va conclure un petit peu cette rubrique sur nos appareils. Alors, une rumeur qui est persistante, voire même qui reprend un petit peu en pourcentage de crédibilité ces derniers jours, et dont on a déjà parlé dans des épisodes de Tech Café, et j'aime bien te toiser sur ce sujet, il se pourrait qu'on ait des MacBook qui soient équipés de processeurs ARM dès l'année prochaine, Guillaume, dès 2021. Possible ou pas possible ?
Oui, bah c'est ce que Min-Chi Kuo, le même, disait en 2018 déjà. Donc apparemment il voyait beaucoup plus loin dans le futur. Il persiste, ouais. Et la réponse, bah, c'est un peu toujours la même, c'est-à-dire c'est possible, c'est techniquement possible, mais c'est pas du tout évident parce que déjà, alors en entrée de gamme, ce serait possible sur un MacBook Air par exemple. Je pense qu'il y aurait pas trop de soucis, ça pourrait fonctionner. Pour les MacBooks les plus puissants, ce serait beaucoup plus compliqué. Et à mon avis, ce serait même casse-gueule parce que ça pourrait casser la couche d'émulation pourrait peut-être même casser les perfs. Et en fait, très honnêtement, je trouve que c'est le moins bon moment pour faire ça. Honnêtement, quand Intel était dans la panade avec son 10 nanomètres qui arrivait pas, qui avait des problèmes, etc.
Ouais.
Bon, j'aurais pu me dire, oui, effectivement, ils veulent se débarrasser d'Intel et peut-être qu'ils ont démarré le truc pour se débarrasser d'Intel et que ça aboutit maintenant. C'est possible. Mais honnêtement, maintenant que Intel a ses 10 nanomètres fonctionnels et qu'en face, il y a AMD qui fait des processeurs tout à fait compatibles, qui sont encore moins chers, qui sont de très bonne tenue, voire même qui tiennent la dragée haute à Intel, ils ont le choix, en fait. Donc, passer à ARM maintenant, bah, ça me paraît un timing étrange, puisqu'ils ont maintenant le choix des ARM, ils peuvent garder des puces Intel tout à fait efficaces, et pas s'emmerder à faire cette couche d'émulation, à recompiler tout leur système, etc., etc., et risquer donc des pertes de perf. Donc, c'est possible, en particulier en entrée de gamme, mais très honnêtement, moi, sur du MacBook Pro, c'est pas quelque chose que je vois pour 2021, certainement pas.
Par contre, et je retiens vraiment ce que tu dis et qui moi me confirme une idée que je pourrais avoir en tête, c'est qu'effectivement des machines de production, des MacBook Pro où on attend un certain volume de perf, ok, j'entends ce que tu dis. Par contre, si on a une gamme de MacBook, est-ce qu'on n'aide pas à unifier une gamme d'iPad / MacBook d'entrée de gamme si jamais on arrive à faire fonctionner des MacBook avec des processeurs ARM?
Bon, non, enfin,
je t'ai pas convaincu.
Pas vraiment, non.
Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, en tout cas, on sait pas s'il va y avoir une conf fin mars. A priori, c'est pas forcément tranché chez Apple. Alors, c'est pas très compliqué hein, chez eux, puisque maintenant, organiser des événements, c'est un peu comme réserver la salle de réunion la plus grande de leur campus. Donc, c'est plus facile maintenant de leur côté. Mais ce serait pas complètement tranché. Il y aurait peut-être l'annonce de nouveaux quoi d'ailleurs de nouvelles Apple TV. On nous parle aussi de nouveaux AirPods. On nous parle d'iPad éventuellement Pro notamment qu'on attend depuis un moment, qui lui serait plus repoussé en fin d'année. Bon voilà, on ne sait pas s'il va y avoir une annonce fin mars, mais a priori Apple ne le sait pas complètement non plus. Évidemment, si ça a lieu, on sera ravis de vous relayer tout ça, comme toutes les autres news tech bien entendu. On va mettre de côté un peu nos sujets croustillants de la tech qui faisaient l'actualité d'un possible ou d'un fantomatique Mobile World Congress. On va enchaîner sur des news qui sont un petit peu plus liées à des faits de société, toujours rattachés à la tech. Et alors, il y a une personne qui concentre un petit peu toutes ces discussions dans les épisodes de Tech Café à chaque fois, c'est Trump. Et là, on va arriver à marier deux sujets dont on a déjà parlé dans Tech Café. C'est évidemment ce que dit Donald Trump, ses prises d'opposition, mais aussi la guerre commerciale qui voit s'affronter Oracle et Google, Guillaume.
Ouais, je vous avais prévenu la dernière fois, le cas Google versus Oracle continue de faire parler de lui, donc je vais obligé de refaire un rapide previously.
À chaque fois.
Donc, bah oui, Google a bâti Android sur une machine virtuelle Java, et donc pour ça, il a recréé une API de ce langage, qui est donc interopérable avec l'API Java qui a été créée par Sun. Sun qui a été racheté plus tard par Oracle, et donc Oracle accuse alors Google d'avoir plagié son API, et le column procès qu'il a perdu. Il a fait appel, et c'est un appel qu'il a gagné. Donc Google a donc fait appel à la Cour suprême et ça n'a pas abouti, et il y a eu un second procès en 2016, que Google a gagné encore. Oracle a encore fait appel en 2018, et Google refait un recours à la Cour suprême. Oui, je sais, ce résumé commence à être long, mais c'est pas ma faute. Rappelons qu'outre 8 milliards de dollars de royalties quand même, sont aussi suspendus à ce procès la possibilité d'une API, la possibilité pour une API d'être protégée par le droit d'auteur. Et donc c'est une remise en question de l'interopérabilité des couches logicielles un petit peu partout. Donc, c'est une éventualité qui donne des migraines à tellement de développeurs que Microsoft, IBM, Mozilla, Red Hat et The Internet Association, entre autres, se sont rangés carrément du côté de Google. C'est pas étonnant, hein. Imagine que tu veuilles attaquer Linux sur l'API POSIX, t'imagines le bazar, ça serait un bordel inimaginable. Et donc aujourd'hui, détente, Larry Ellison, donc CEO d'Oracle, organise une levée de fonds pour Donald Trump. Donc en gros, un selfie pour le président, c'est 100 000 dollars, hein, mais vous pouvez mettre plus pour soutenir le sympathique locataire de la Maison-Blanche. Une action qui a d'ailleurs provoqué un mouvement de grève chez 300 employés, c'est vraiment très peu, mais en fait, bon, tout le monde balise à Oracle, hein, et tout le monde balise tellement pour son poste que c'est déjà pas si mal, 300. Oracle flaguait tous les visiteurs pour le site web de protestation d'ailleurs. Il y avait des messages un petit peu menaçants comme ça. Et bref, de manière concomitante, l'administration de Trump a explicitement demandé à la Cour suprême de rejeter le recours de Google. C'est le procureur Noël Francisco qui aurait demandé de refuser d'entendre Google carrément, explicitement, sur demande du président. Donc voilà, les subtilités des interactions logicielles, c'est, à mon avis, c'est pas tellement ce qui embarrasse Donald. Hein. Larry le soutient, il soutient Larry, voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on se fait des amis, hein, et qu'on passe de bons moments avec un boursin et un bon verre de vin.
Voilà, c'est joli de voir que ça tient quand même un peu de choses, ces histoires. Mais quelle est la probabilité, selon toi, que ça aboutisse, ce mouvement-là? Ok, il y a beaucoup d'argent en soutien à cette campagne.
L'argent n'est pas le plus grave. Hein. C'est pas le plus important, l'argent, c'est ça le problème. En fait, c'est que Trump s'est rangé du côté du mauvais côté du point de vue des développeurs, en fait, puisque... Si Google perd de manière définitive, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Ça peut être vraiment très emmerdant.
Bien sûr, mais en fait, le point qui m'interpelle, c'est dans quelle mesure est-ce que Trump a ce pouvoir-là, probablement qu'il a un pouvoir d'influence, mais dans quelle mesure est-ce qu'il peut intervenir, et c'est vraiment de la méconnaissance de mon côté, hein, mais auprès de la Cour suprême pour ignorer la requête de Google sur le sujet?
Ah mais ça, je pense qu'il a tout le pouvoir de faire ça. Après, est-ce que c'est suffisant pour tout bloquer? Peut-être pas. Hein. Il a peut-être pas à ce point ce pouvoir. Mais il y a quand même, à mon avis, le pouvoir de mettre des bâtons dans les roues.
Trump qui aurait proposé aussi quelque chose d'autre. Alors là aussi, quelque chose qu'on peut rapprocher l'univers de la tech et qu'on avait déjà relayé dans Tech Café. Mais il aurait proposé un deal à Julian Assange, Guillaume.
Ouais, c'est Julian Assange qui aurait reçu en août 2017 la visite d'un membre républicain du Congrès. Hein, ce serait Dana Rora Baker. Donc c'était à l'ambassade équatorienne à Londres, où il était reclus à l'époque. Et c'était pas tellement une visite amicale, hein, quoique. Puisque bon, il est arrivé avec un deal, comme les aime Donald, hein, l'amnistie, un échange d'informations montrant que les Russes n'étaient pas responsables, en fait, de la fuite des mails du Parti démocrate pendant la campagne de 2016. C'est ce qui leur a fait beaucoup de tort dans l'opinion publique. Enfin, ça, c'est une version. Selon celle de son avocat, enfin, d'un de ses avocats, les avocats d'Assange, donc qui est en procédure d'extradition en ce moment, ça serait plutôt affirme que c'était pas les Russes et on abandonne les poursuites, côté des preuves ou pas, c'est secondaire finalement. Donc on rappelle qu'Assange, c'est Monsieur WikiLeaks, hein, c'est par là qu'ont fuité d'innombrables secrets d'État, dont les emails de la campagne d'Hillary Clinton et Bernie Sanders. Et bien que WikiLeaks en soit toujours défendu, enfin tenu à sa position habituelle hein, de pas révéler les sources, le hacker Guccifer 2, qui a été, avec un haut niveau de confiance, identifié par une demi-douzaine d'agences d'experts comme étant originaire de deux agences russes. Le FBI d'ailleurs a fait de même. Donc, cette fuite d'email d'ailleurs fait partie du dossier Steele, le dossier supposé de connivence entre Trump et les Russes, un dossier qui pourra faire une saison de podcast lui tout seul d'ailleurs, si on s'y mettait, mais on va pas s'y mettre du tout. Donc apparemment, ça a été reçu comme crédible par la cour anglaise, cette révélation, dont on n'est pas complètement sûr néanmoins, et donc c'est un rebondissement spectaculaire dans le feuilleton Assange, hein. Et ça remet peut-être, est-ce que ça remet son extradition en question? Ben, va savoir, on vous tiendra au courant, mais... C'est des nouvelles d'Assange.
C'est un signal à suivre en tout cas. Alors ben c'est bien, on parle justement des Russes, tu es en surveillance là Guillaume sur les actions qui sont possibles de leur côté. On sait que c'est les élections américaines qui rythment l'actualité politique là-bas évidemment.
Ouais, oui. Bah, ils étaient de la Fed en 2016, donc il n'y a aucune raison qu'ils s'invitent pas en 2020, hein, les trolls et autres influenceurs souterrains du Kremlin. Ils seraient même déjà là, hein. Les Russes soutiendraient déjà activement Bernie Sanders, comme en 2016 d'ailleurs, donc à l'époque c'était pour enquiquiner Clinton. Cette fois encore, ils doivent considérer que Sanders est un moyen de diviser le clan démocrate, ou même, je sais pas, de miner des candidats qui ont plus de chances de gagner de leur point de vue. Bah, en tout cas, c'est des informations officielles qui ont été données au clan Sanders par leur renseignement américain, et il y a eu aussi un briefing la semaine dernière au Congrès, à la House Intelligence Committee. Donc selon eux, les Russes travailleraient d'ores et déjà à la réélection de Trump. Ils ont vraiment une conscience professionnelle incroyable, ces Russes. Hein. Oh là là.
Ils font les choses bien, on va dire.
Mais carrément. Puis bon, Facebook avait déjà remarqué la tendance. D'ailleurs, il a déjà viré, 80 comptes qui sont très 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 suspects. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Trump a critiqué Joseph McGuire, qui était directeur du renseignement national et qui a démissionné le lendemain. Apparemment, Donald n'aurait pas apprécié que ce briefing ait eu lieu parce que ça donnerait trop de grain à moudre à ses adversaires politiques, il semblerait.
Bah écoute, j'ai l'impression que l'histoire risque de se répéter dans certaines proportions, mais j'ose espérer que l'être humain et la société apprennent de ses erreurs.
Bien sûr, ça va se répéter en pire.
Ça, c'est peut-être ça le problème, oui, effectivement. Comme le veut la tradition de l'espèce humaine. Toujours du côté de Trump, il y a des préparations d'actions, notamment médiatiques sur le web et sur les réseaux sociaux.
Bah oui, mais parce qu'il n'y a pas que les Russes qui vont inonder les réseaux sociaux de pubs à la con pour l'un ou l'autre. Hein. Je veux dire, Trump s'est lui-même réservé la tête de gondole sur YouTube pour novembre 2020.
Et il s'est réservé acheté... le prime time sur YouTube.
Ah, mais c'est hallucinant. Hein. Il avait acheté déjà pour 500 000 à 1 million de dollars d'espace pour inonder le débat démocrate l'été dernier. Et de son côté, Bloomberg a déclenché un tsunami de pubs et il est prêt à dépenser jusqu'à 1 million de dollars par jour pour de campagne aux primaires juste sur Facebook. Donc c'est des centaines de personnes en fait qui sont employées à diffuser des messages positifs sur lui. Sur Facebook, partout, sur Twitter, sur Instagram, partout, à tel point d'ailleurs que Twitter a fermé 70 comptes parce qu'il y en avait ras le fion, des manipulations de plateforme, du spam. Donc en gros, qui a besoin des Russes, franchement? Bon, pour finir, en toute mauvaise foi, on avait parlé de la manipulation... de manipulation déjà du moment Pelosi, tu sais, où l'avait déchiré comme ça le discours de Trump. Il y a deux semaines, cette fois, c'est Bloomberg qui poste une vidéo, donc Bloomberg un démocrate, hein, qui poste une vidéo montée aussi, qui fait passer les autres candidats démocrates de la primaire pour des benets. C'est pas du tout un deepfake, hein, c'est juste un montage très très simple. Bon, c'est une vidéo manipulée qui est sans ambiguïté possible, hein, puisqu'il y a un grillon qui chante derrière, bon. Mais c'est suffisant pour poser un cas de conscience aux plateformes. Twitter ne l'accepterait pas, Facebook l'accepterait. Alors, est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est un simple gag? Voilà, ou est-ce qu'on arrête de faire semblant que la pub politique est une bonne chose et ne fasse pas partir en couille toute la politique dans son ensemble, tout le débat public? Et je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, à ton avis?
Bah, effectivement, je crois que tu poses très très bien la question. Et quand on regarde la vidéo, on le voit ouvertement que c'est un montage. Maintenant, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une influence possible là-dessus? Et puis, comment est-ce que ça répond aux codes qui ont été mis en place par les plateformes, par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter. Et on voit que c'est pas si simple finalement de trancher ce genre de choses. Oui, t'as raison, la question de fond, elle est peut-être encore plus en amont. Dans quelle mesure est-ce qu'on se rend pas compte que la publicité en tant que telle sur la partie politique est pas problématique? Je me sens un peu, peut-être que c'est naïf d'ailleurs, hein, mais dans des pays comme la France, où on voit comment c'est géré la partie médiatisation des campagnes présidentielles, des élections de manière générale, je me sens un peu protégé quand même, hein, mais bon, c'est peut-être qu'une illusion que j'ai. En attendant, la manipulation a continué avec la politique, et là, évidemment, les deepfakes devaient s'inviter là-dedans, Guillaume.
Bah oui, on parle de vidéos manipulées, donc on peut prendre une nouvelle de deepfake. Le deepfake se porte bien, merci. Hein. D'ailleurs, j'attire votre attention sur la chaîne vidéo YouTube The Fakening, qui est spécialisée dans le genre et où il y a une vidéo de Bernie Sanders qui danse sur du Lady Gaga.
C'est ma petite préférée. C'est bien fait, hein. C'est très bien fait.
Bernie Gaga, il est génial. Il est absolument génial. Mais il y a aussi un des derniers clips qui est impressionnant de qualité, où il y a Jeff Bezos et Elon Musk qui jouent dans un épisode de Star Trek. Donc Bezos est un nitty à grosse tête et Elon est le capitaine Pike. Donc il montre bien quand même que la technologie continue d'évoluer, ça devient un outil comme un autre en fait. Hein. À tel point qu'il y a des hommes politiques qui ont déjà recours eux-mêmes, c'est le cas de l'un d'entre eux en Inde qui s'appelle Manoj Tiwari. Il est candidat des élections législatives. Il a fait une vidéo de campagne où il parle en hindi, hein, qui est sa langue maternelle, puis il a engagé une agence qui s'appelle Ideas Factory pour faire un deepfake de lui parlant deux autres langues, l'anglais et le haryani. Alors, ça pourrait paraître assez anodin, finalement c'est quoi? C'est juste l'étape au-dessus du doublage standard en fait, ouais. Finalement c'est quoi?
L'étape évolue.
Alors, Si c'est vrai, pourquoi l'avoir fait? Parce que c'est plus cher, c'est plus complexe, mais par contre, le résultat, il est plus naturel. En fait, c'est très bien fait, tu as l'impression que le candidat te parle dans ta langue, et en fait, c'est vrai que ça le rapproche en quelque sorte. C'est une forme de super ciblage. Le candidat cible explicitement d'ailleurs les migrants qui arrivent à Delhi et qui parlent le haryani, et surtout, c'est invisible. Moi, j'aurais pas deviné que la vidéo était altérée. Quand j'ai vu la vidéo en anglais, j'aurais pas deviné que la vidéo était altérée. J'aurais cru que le candidat était vraiment polyglotte, en fait. Ce qui est pas vrai. Le gars, donc, est-ce qu'il est vraiment plus proche de toi? Il parle pas vraiment ta langue. Donc, est-ce que c'est pas de la manipulation? Le deepfake, même volontaire, ça peut poser problème. Surtout s'il est pas révélé, bien sûr. Mais même dans ce cas, est-ce qu'inconsciemment, une vidéo trafiquée est pas de toute façon plus efficace? Tu vois, imagine ce que ça pourrait devenir. Tu peux avoir des candidats vieux et fragiles qui apparaissent dans des vidéos où il faut un jogging, ou des candidats qui s'adressent spécifiquement à chacun d'entre nous. Tu vois, tu peux imaginer Macron qui apparaît dans une fenêtre et qui te parle de tes problèmes de permis de construire, par exemple, ou de l'isolation de ta maison, et comment ça va aller mieux si tu votes pour lui. C'est parfaitement envisageable, hein, dans une manière très proche. Hein. C'est des vidéos qui pourraient être générées à la volée. Il y aurait le ciblage pub pour te connaître au maximum. La génération de texte, si le GPT-2 avec une intelligence qui génère le texte, en fonction de tes centres, enfin en fonction de tes trucs, quoi, de tes problèmes. La synthèse vocale neurale, comme chez Google, un petit deepfake par là-dessus. Voilà, le candidat, il enregistre des bouts de vidéo qui seraient ensuite déclinés à l'infini, spécialement designés pour toi, réaliste à s'y méprendre. Et voilà, donc évidemment, il pourrait y avoir des voyants qui pourraient faire ça aussi, d'ailleurs. Des faux qui seraient tous parfaitement volontaires, mais est-ce qu'ils seraient souhaitables? C'est compliqué. Hein.
Des publicitaires aussi, qui pourraient s'emparer de cette belle technologie de manière très très efficace. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette problématique, et d'ailleurs on peut rebondir aussi sur la problématique soulevée par les manipulations vidéo sur les plateformes de réseaux sociaux, par exemple, c'est que la réponse simple et naïve qu'on pourrait apporter pour essayer de trancher est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est quelle est l'intention? Est-ce que l'intention c'est de tromper, ou est-ce que l'intention c'est de faciliter la compréhension, etc. Et le problème, c'est qu'il est complètement impossible d'être factuel et d'avoir un avis objectif quant à l'intention d'une production d'un contenu. Peut-être que le bonus que je vais évoquer tout à l'heure sera peut-être encore l'occasion de parler de ce sujet. Mais avant d'y arriver, il nous reste encore quelques news dans ce domaine-là. Et alors, c'est très éloigné, pas tant que ça finalement, mais un peu éloigné du coronavirus, puisqu'on ne soigne pas le coronavirus avec des antibiotiques, c'est juste contre les bactéries, mais en l'occurrence, tu as des petites infos sur des solutions algorithmiques pour les antibiotiques, Guillaume.
Oui, c'est le moment où on reparle de maladies, ça faisait longtemps. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, là, quand même, hein, puisque les biologistes ont lâché un algorithme de deep learning sur une grosse masse de données pour trouver des candidats de nouveaux antibiotiques. Donc l'algo s'est entraîné sur 2500 produits chimiques qui bloquent plus ou moins bien le développement des bactéries, et en l'occurrence, Escherichia, oula, j'ai du mal avec ce truc, Escherichia coli,
Tu dis bien le temps.
Mais je crois que je me plante. Le truc, c'est donc fait une idée, en gros, de quelle sorte de produit est efficace contre les microbes. Et ensuite, ils l'ont lâché sur une liste de 6000 composés qui pourraient faire l'affaire. Et non seulement l'IA, donc l'IA entre guillemets, a donné ceux qui lui paraissaient les meilleurs, mais surtout, en plus, même surtout, ce sont ceux qui sont le moins proches d'antibiotiques qui existent déjà. Et ça, c'est très important parce qu'on minimise les chances que les bactéries s'y adaptent rapidement et que donc ça soit plus efficace dans le temps. Donc on limite la fameuse résistance aux antibiotiques, hein, s'ils donnent des sueurs froides à tous les toubibs du monde et à moi de temps en temps. Donc ça marche pas mal. Hein. Ils ont testé un truc qui s'appelle l'allicine. Et oui, ça vient de HAL, H-A-L. Puisque donc c'est l'intelligence artificielle de 2000 ans, c'est de l'espace, parce que oui, bon, elle a été sélectionnée par une IA, tout ça, donc c'était marrant. Et donc cette allicine, elle semble très puissante et elle désingue des saletés résistantes comme les entérobactéries et d'autres trucs au nom imbitable. Donc des tests sont encore nécessaires pour vérifier qu'elle est pas dangereuse, parce que c'est vrai que si elle tue les bactéries et toi par le moins occasion, c'est un petit problème.
C'est dommage, oui.
Mais bon, la méthode semble validée, quoi. Donc il y a des millions d'autres candidats qui attendent de se faire sélectionner, et donc là, oui, la sélection d'antibiotiques, ça devient automatique. C'est une super nouvelle.
T'es un petit peu, comme on dit, t'es un petit peu peur d'être malade de manière générale. Quel est le terme? J'ai oublié, je l'ai sur le bout de la langue.
Je ne suis pas hypochondriaque particulièrement, pas particulièrement. Par contre, s'il y a quelqu'un qui tousse, je change de place.
Ah oui, d'accord, ok, bon, j'ai situé dans quel cas tu étais, très bien. Parfait, dernière news un petit peu de relative à cette rubrique hein, qu'on passe aux jeux vidéo, Guillaume.
Oui, on continue avec ce qui risque de devenir la revue Covid hebdomadaire, hein, donc Covid-19. Donc le virus qui continue d'avoir des répercussions évidemment terribles en tech, avec un retard possible de l'iPad Pro, conjointe à une activité réduite d'Apple en Chine, et l'annulation pour Sony de sa venue à la PAX East, qui aurait dû avoir à Boston et à la GDC. D'ailleurs, il y a Facebook via Oculus, hein, qui n'ira pas non plus à la GDC, et il y a Kojima aussi qui va bouder le salon, plus généralement d'ailleurs tous les exposants chinois. Donc voilà, toujours pas d'annonce PS5 en vue, hein, sniff. Donc pour le moment, impossible de décider, de préciser, bon, vu comme cette histoire de pandémie est en train de partir en couille, on ne sait pas, mais la GDC pour l'instant reste néanmoins programmée du 16 au 20 mars à San Francisco. Voilà, probablement avec des barils de gel hydroalcoolique en libre-service.
Tu m'étonnes. GDC, Game Developer Conference, hein, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, donc l'espèce de grand messe pour développeurs de jeux vidéo, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'annonces qu'on attend, et c'est un moment rêvé pour enchaîner sur la rubrique jeux vidéo. Alors, vous aviez déjà parlé avec Kassim la semaine dernière de défection du service GeForce Now, qui quitte donc la plateforme, et donc contrairement à ce qui était promis au départ, c'est pas une universalité des titres qu'on peut attendre, mais il y a en plus d'autres acteurs qui commencent à quitter un petit peu le navire, Guillaume.
Ouais, mais ça commence à ressembler à une grosse migraine quand même en perspective pour Nvidia, hein, puisque après Activision Blizzard, c'est Bethesda deuxième poids lourd qui s'en va. Donc Bethesda, c'est Fallout, Doom, Wolfenstein, Elder Scrolls et compagnie. Et donc oui, écoute, ils quittent GeForce Now pour des raisons maintenues confidentielles. Alors voilà, pourtant ils étaient tous les deux tranquilles, disponibles pendant la bêta. Hein. Mais ils se réveillent maintenant que le service est devenu commercial. Donc on se doute que ces raisons confidentielles, c'est tu auras une licence si tu allonges du pognon. Bon, faut suppose. Donc ça continue avec les problèmes de licence pour le cloud gaming. Alors rappelons néanmoins que Cyberpunk 2077 sera bien sur GeForce Now au lancement. Donc même s'ils perdent Fallout 76, c'est pas si terrible pour Nvidia.
C'est la guerre des plateformes qui continue, mais vous en aviez très très bien parlé avec Kassim à ce sujet. J'ai commencé au passage, Guillaume, je l'ai même presque fini, The Mandalorian. Et alors j'en profite puisque tu avais déjà un petit peu parlé de cette série dans un précédent épisode de Tech Café. Et j'en profite là puisque tu vas nous en reparler pour dire que donc je l'ai attaqué presque terminé. Je suis très enthousiaste, je prends beaucoup beaucoup de plaisir à regarder cette série. J'allais dire que c'est des plaisirs simples qui sont en plus, et là je ne peux qu'encenser Disney, et tant pis pour les puristes de l'univers de Star Wars qui vont sans doute me jeter des petits cailloux, je trouve qu'ils arrivent très très bien à doser l'universalité familiale de ces contenus. Aujourd'hui moi je regarde cette série là avec mon fils de 8 ans qui découvre Star Wars, donc ça fait partie de cette génération qui découvre Star Wars grâce à ce contenu là, grâce à Mandalorian, parce que j'avais essayé de lui faire regarder d'autres épisodes de Star Wars, les films, et en particulier alors l'épisode 1, mais qui est hyper pénible pour les enfants, puisqu'il commence sur des tractations avec la Fédération du Commerce, le truc qui est imbitable pour des enfants, et les autres épisodes sont pas non plus les plus attrayants, je pense, pour des enfants, et je serais même pas forcément rassuré à ce qu'ils les voient tout de suite, mais The Mandalorian, ils arrivent très très bien à doser le contenu pour de la famille, et ça en est pas dénaturé. Donc bravo, donc coup de chapeau, gros coup de cœur de mon côté, et au passage, tu as quelques news croustillantes qui nous permettent de mieux comprendre la manière dont a été réalisé The Mandalorian et comment ça impacte un petit peu les choses dans la production de contenu audiovisuel.
Ben oui, parce que le Mandalorian a tout changé. De toute façon, Baby Yoda peut changer les cœurs rien que par le pouvoir de son mignon.
Ça, c'est vrai.
Accessoirement, pour ILM, ça a été aussi l'occasion d'utiliser en production un nouveau dispositif impressionnant qui va changer, à mon avis, pour toujours, effectivement, la production de tout, hein, de films, de séries, de pubs, de tout ce qu'il faut. Puisque conceptuellement, c'est quand même assez simple, hein, c'est un studio dont les décors changent à la volée, hein, qui peuvent être modifiés en temps réel. Et il y a 50% de The Mandalorian qui a été tourné sur Stagecraft, qui est un set cylindrique de 22 mètres de diamètre sur 6 mètres de hauteur, qui fait 270 degrés, qui court 270 degrés. C'est un espace courbe qui enveloppe les acteurs, et c'est un immense écran LED qui affiche l'arrière-plan qu'on veut. Le plafond aussi, d'ailleurs, est un écran. Il est moins bien défini. Il est là juste pour l'éclairage et l'ambiance générale. Mais cet arrière-plan, en fait, il est calculé en temps réel sur un énorme PC gamer, hein, sur GeForce, d'ailleurs, il paraît. Et synchronisé avec la position de la caméra. Alors, c'est important de connaître la position de la caméra et de mettre à jour ce qui est vu par la caméra, parce que si la caméra est fixe, ça passe. Ça, y a pas de problème. Par contre, si elle bouge, évidemment, comme c'est une projection sur un truc cylindrique, la parallaxe est à respecter, puisque l'arrière-plan est plat et en 2D. Donc, il faut mettre à jour l'image derrière en temps réel, en fonction de la position, et ça de manière extrêmement rapide, avec une latence minimale, un petit peu comme en VR, en fait, hein, pour rendre compte correctement la perspective. Donc, c'est surtout crucial dans les espaces confinés en intérieur où on ne voit pas très loin, où les perspectives sont vraiment très, très visibles. Et donc, c'est une révolution, puisque au lieu de tout filmer sur fond vert et de faire du compositing en post-prod, ben, le décor est calculé, affiché, filmé directement à la volée. Tu filmes et tu as directement le décor. Donc, il peut être quelconque, évidemment. Hein. Ça peut être un décor jour, nuit, n'importe quoi, en mouvement même, ou pas. Ça peut être un décor en mouvement, ça peut être une course-poursuite filmée directement. Donc, c'est inestimable pour l'immersion des acteurs. Hein, et ils sont vraiment là où ils sont censés être. Tu vois, ils sont pas sur un fond vert en train de parler une balle de tennis, ça peut aider. Et ça simplifie évidemment considérablement la post-prod. Le changement de décor est instantané et en plus l'éclairage il est naturellement fidèle. Parce que imagine par exemple c'était le crépuscule sur Tatooine, tu vois, le ciel doit se réfléchir dans le casque du Mandalorien. Si t'as le soleil rouge, bah, il doit se réfléchir dans le casque du Mandalorien. L'environnement en fait doit éclairer les acteurs de manière fidèle, quoi. Et s'ils sont sur le fond vert, bah, tout doit être reconstitué. Alors que là, bah, l'environnement il est là, donc le ciel se réfléchit vraiment simplement pour de vrai sur le casque et puis c'est tout, c'est fait. Donc ce nouveau type de studio, ça réduit énormément le besoin de tourner in situ. Il suffit d'envoyer des gens prendre des masses de photos, de recréer un set virtuel, de le projeter sur Stagecraft, et voilà, bah, c'est infiniment moins cher. Les reshoots, ils coûtent presque rien. Donc c'est un système qui, évidemment, doit coûter des millions et des millions de dollars pour l'instant, hein, mais qui va certainement devenir le standard de réalisation très rapidement.
Je me demandais dans quelle mesure est-ce que c'était pas non plus une source d'économie écologique, mais parce que je me suis posé la question en suivant cette info, de quel était le poids écologique d'un tournage. J'en sais rien, par exemple, on pense au Seigneur des Anneaux qui va en Nouvelle-Zélande avec tous les déplacements, les voyages en avion et tout. Donc, du coup, j'imagine que c'est une économie écologique, quoi.
T'envoies deux pingouins avec des gros appareils photo ou t'envoies toute l'équipe pour faire pendant des mois sur. Non, ouais. c'est incomparable.
C'est clair. Bah, bravo. C'est cool, c'est hyper enthousiasmant, je trouve, et j'aime bien quand parfois ces technologies, on arrive à observer un basculement et à quel point ça impacte plein de choses. Allez, les basculements, ce sera peut-être aussi la nouvelle génération de consoles et ça conclura notre rubrique jeux vidéo. Est-ce que tu vas pouvoir nous communiquer les caractéristiques officielles de la Xbox One Series X, Guillaume, roulement de tambour?
Eh bien oui, je peux, puisque Phil Spencer, via un post de blog, l'a fait lui-même, il a confirmé les détails techniques de la Series X. Bon, bah, c'est du CPU AMD Ryzen 2. Donc ça sera 4 fois plus rapide que celui de la Xbox One originale, et on a un GPU donc aussi AMD RDNA 2 qui est 8 fois plus puissant que celui de la console originale, et qui est donc 2 fois plus puissant que celui de la Xbox One X à 12 teraflops. Bon, il est probable que toutes les puces utilisent d'ailleurs le prochain 7 nanomètres FinFET qui promet 50% de mieux que la génération RDNA actuelle, quoi. Et bon, plus intéressant, donc le RDNA 2 offrira bien une accélération ray tracing, hein, que RDNA ne possède pas pour le moment, donc pour de meilleures ombres, pour meilleur éclairage, et même probablement pour un meilleur rendu sonore, ça a été mentionné, parce que oui, hein, finalement, le son se propage aussi, et le ray tracing, ça permet de connaître finalement juste le point d'intersection d'une droite et d'un objet. Donc potentiellement, comment se propage le son, et peut-être de le moduler en fonction de la géométrie de la pièce et d'où tu te trouves, de plus facilement.
C'est intéressant.
Et donc bon, on a aussi du variable ray shading, qui était aussi absent de RDNA 1, ça permet d'ajuster la résolution du shading dynamiquement et d'économiser des ressources, le cas échéant. Donc par exemple, hein, si t'as un mouvement avec du motion blur, bah, inutile de tout rendre au maximum, voilà, à la périphérie de l'image que tu regardes pas trop, ben bon voilà. Donc à noter que le VRS et le Ray Tracing sont déjà présents chez Nvidia, donc finalement RDNA 2 rattrape un petit peu RTX pour le moment. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et puis entre autres éléments transformatifs, on a donc le SSD qui serait custom, donc on n'a pas de performance explicite. On croyait savoir que ce serait du PCI Express 4, alors qu'est-ce que ça veut dire custom ici, on ne sait pas trop, sauf que ça sera vraiment très rapide apparemment, puisque ça pourrait aussi permettre de suspendre plusieurs jeux en vol à la fois, à la manière d'un PC un petit peu. Donc je suppose que la machine sera équipée de GDDR6 avec une énorme bande passante, et d'ailleurs il y aura une grosse bande passante aussi sur les manettes, puisqu'il y a un nouveau protocole de communication sans fil, qui serait plus précis avec une faible latence. Donc voilà, tout ça c'est quand même pas mal, la console sera par ailleurs compatible HDMI 2.1 et avec tous les jeux Xbox, de la première à la One, en passant par la 360. Bon, pour le prix, de toute façon, Sony Microsoft joue à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, hein, le premier qui bouge a perdu, on verra donc, le premier qui dégaine le prix, l'autre il met 50 balles de moins et puis c'est fini. Ça va se passer comme ça apparemment.
Ou même 9,99€ de moins. Deux choses par rapport à cette rubrique jeux vidéo pour la conclure en beauté, Guillaume. D'une part, je ne sais pas si tu as écouté Quête Latérale, qui est le podcast de la gamme de podcasts qualité que je t'avais recommandé.
Oui, c'est vrai, mais pas encore, non.
Alors, je t'invite à écouter parce que je trouve, moi, en tout cas, qui suis un joueur assez occasionnel, mais quand même intéressé par le monde des jeux vidéo, je trouve que ce qu'ils font est captivant. Donc, je vous invite à aller écouter Quête Latérale si vous aimez les jeux vidéo. Et il y avait une chronique qui était faite par Lamua dans le dernier épisode, où il expliquait à quel point la console, c'était vraiment le truc qui avait réussi à nous enfermer dans des catalogues et qui avait créer des faux prétextes pour nous faire acheter des matériels et nous enfermer dans des écosystèmes. Il parlait notamment de la supercherie des manettes et il disait que bah, en fait c'était complètement con d'avoir des manettes qui aient des ports propriétaires ou qui soient pas compatibles d'une console à l'autre et que ce soit pas plus facile d'avoir un peu d'universalité là-dedans, et que la manière dont les manettes étaient rattachées à une console, c'était un peu artificiel et un peu commercial. Et en même temps, j'écoute là ce que tu dis sur le protocole des manettes de la Xbox. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est pas vrai que les manettes utilisent vraiment des technologies différentes? Est-ce que c'est complètement bidon et que c'est des raisons commerciales qui limitent l'utilisation d'une manette d'une console à une autre? Ou est-ce qu'il y a des vraies différences techniques à ta connaissance?
Bon, il peut y avoir des vraies différences techniques. Oui, c'est... Alors, ça dépend de quelle époque tu parles, hein. Je veux dire...
Époque récente, on va dire. Les voilà, deux, époque récente, parce dernières... que
sur les vieilles consoles, les manettes étaient physiquement différentes, donc elles étaient câblées de manière différente aussi. Là,
partons de l'époque sans fil. Allez, allons-y, sur les manettes sans fil.
Oui. Bah, sur les manettes sans fil, c'est des technologies qui sont propriétaires. Ils peuvent être propriétaires. Par exemple, l'Xbox 360, c'était pas du Bluetooth, c'était une technologie propriétaire. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, si tu prends Bluetooth, tu es soumis au problème du Bluetooth. Alors que si tu fais ton propre protocole, bah, tu peux choisir les ressources que tu veux allouer, les performances que tu veux atteindre, etc. D'accord. Donc, tu peux faire des manettes sans fil plus ou moins efficaces, hein, c'est tout à fait vrai. Hein. Tu peux avoir plus ou moins de latence, un appairage plus ou moins simple. Non, tu peux faire des choses propriétaires. Okay. Ils pourraient très bien tous, évidemment, se prendre par la main et en chantant We Are The World, avoir le même protocole, bien sûr, mais bon...
Bon, c'est pas le cas. Et dernière chose, il me semblait dans la préparation de l'émission, avec les informations que tu avais sélectionnées, je suis désolé de ne pas le voir, tu avais des infos sur des améliorations de rendu visuel de Witcher 3 sur Switch, non? Je dis des grosses bêtises ou pas?
Oui, non, mais en fait, je l'ai viré pour économiser du temps, c'était moins intéressant que le truc Xbox One qui était tombé après. Mais oui, si vous avez The Witcher 3 sur Switch, deux mots pour dire qu'il y a eu une excellente mise à jour qui permet de partager ses sauvegardes du PC à la Switch, ce qui fait de la Switch votre second PC, quoi. Vous pouvez continuer votre partie, c'est très appréciable, et puis la possibilité de régler aussi certains paramètres visuels qui peuvent rendre
comme
l'expérience beaucoup plus nette, sur en particulier en mode mobile, donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment un excellent portage de Saber, donc le studio Saber qui fait aussi PUBG il me semble, et qui vient d'être racheté, qui va être racheté pour une somme assez importante, puisque ce sera à terme 500 millions de dollars qui pourraient être mis dans le rachat de Saber par THQ, qui est donc par The Embracer, donc, qui, puisque c'est la nouvelle maison mère, je crois, de THQ. C'est, si je me plante pas. Enfin, moi, toujours est-il que, voilà, je l'avais viré parce que, bah, la Xbox One me semblait plus intéressante, mais plus qu'on y est. Tu as raison.
Je t'ai forcé à le remettre, du coup. on enchaîne avec la rubrique en vrac, mais qui va faire un enchaînement parfait avec cette rubrique jeux vidéo. Décidément, quelle préparation professionnelle des notes de l'émission, Guillaume, avec des jeux électroniques. Mais enfin, c'est fini, ça. C'est quand j'étais tout petit, les jeux électroniques, Guillaume.
Oui, peut-être que ça aura duré, c'est fini. Non, en fait, ça dépend des jeux électroniques. Moi, j'avais des Game & Watch Nintendo, j'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé, parce que je l'ai tout gardé. Et c'est vrai que c'est rigolo, mais 5 minutes.
Ah, enfin, il faut quand même, c'est un peu agaçant, quand même, non?
Ouais, voilà, faut avoir 6 ans. et donc, parmi les Game & Watch qu'il y avait à cette époque-là, il y avait les meilleurs, c'était globalement les Nintendo, et les autres, ils étaient un peu moins bons. Et parmi les moins bons, il y avait les Tiger. Donc, c'était ces gros machins en plastique qui coûtaient vraiment beaucoup moins cher. Et donc, les jeux LCD Tiger, c'est des trucs qu'on n'aurait pas forcément eu envie de revoir venir. Enfin, je veux dire, c'était pas vraiment nécessaire, mais Hasbro va le faire quand même. Donc, il va ressortir une série. Alors, je sais combien il y en aura. Je crois qu'il y en aura 4. 4 jeux LCD. La Petite Sirène, X-Men, Transformers et Sonic 3. Donc, en LCD, $15 chaque. Donc, autant dire que c'est vraiment de l'achat nostalgique d'impulsion. Pour des jeux au fun, à mon avis, très relatif. qualité de fabrication tout aussi relative, mais comme à l'époque finalement, hein, donc voilà. Mmh. Donc Sonic, évidemment, ce seront des jeux qui seront inspirés très très librement de leur contrepartie normale, quoi. Bon, pourquoi pas, 15 balles, c'est sûr que c'est, mais c'était vraiment, je pense que c'était vraiment pas nécessaire.
Ouais, je pense même, là encore, on parlait tout à l'heure d'empreinte écologique, je sais pas dans quelle mesure, est-ce que c'est pas effectivement catastrophique de voir ce genre de proposition qui va engendrer de la production sur un volume forcément non négligeable de produits comme ça de ce type-là. Bon, allez, après tout le monde a droit à découvrir les joies des jeux électroniques. Est-ce que tu te rappelles de ce bug?
Ton gamin, il va se foutre de ta gueule si tu lui dis que t'as joué là-dessus.
Bah, complètement, parce qu'en plus, j'étais en train de dire, à moins qu'on ait 6 ans, mais enfin, c'était 6 ans à l'époque, quoi, parce que les enfants de 6 ans aujourd'hui, tu leur mets ça entre les mains, à mon avis, ça leur fait pleurer le cerveau. Est-ce que tu te rappelles de ce bug de notification de traçage du mobile de Samsung, Guillaume?
Non, mais j'ai pas vu ça. Non, ça, j'ai pas vu.
Alors, c'était une erreur, selon Samsung, qui avait fait envoyer à plein de smartphones Samsung une notification un matin, donc traçage du mobile, qui est une traduction plutôt hasardeuse de Find My Phone. Et donc, c'était une notification qui affichait le titre 1 et comme contenu de description de la notification 1. Et donc, si tu cliquais dessus, bah, t'arrivais, enfin, si tu appuyais dessus sur ton smartphone, tu arrivais sur l'application Find My Phone, mais sans plus de bizarrerie.
C'est pas suspect du tout.
Donc, le truc pas suspect du tout, effectivement. Et il s'avère que des personnes se sont amusées quand même à se dire, bah, tiens, il y a peut-être un souci, je vais aller changer mon mot de passe. Et ils vont vérifier un petit peu ce qui se passe. Et dans l'application traçage du mobile, ils découvrent que, bah, ils ont accès à des données d'une autre personne, avec des informations personnelles d'une autre personne, donc ils ont été interrogés par deux registres, ils ont bien confirmé qu'il y avait eu une erreur technique qui avait eu pour conséquence de donner à un petit nombre d'utilisateurs, j'aime toujours cette proportion très précise des choses, l'accès aux données d'autres utilisateurs. Donc en gros, il y avait eu des mélanges d'informations, c'est pas forcément rassurant ce genre de choses. Je sais pas si vous avez été concerné, si c'est le cas, vous pouvez déposer un commentaire sur techcafé.fr, on sera ravis de savoir si il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont été concernés. On va passer au bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de ce nouvel épisode de Tech Café?
Alors, ben, grâce aux auditeurs de Telegram, grâce aux participants du groupe Telegram, j'ai vu passer donc le documentaire People's Republic of Desire, que j'avais déjà repéré avant, mais que j'avais pas pu voir puisqu'il n'était pas passé à la télé. Enfin, c'était difficile de se le procurer. Et donc là, par contre, il est passé sur 25 nuances de doc en replay France Télévisions et encore disponible jusqu'au 20 mars. C'est pour ça que je vous dis. Donc, si vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais pas dire que c'est, donc c'est un documentaire chinois réalisé par Hao Wu, hein, et je vais pas dire que c'est un long épisode de Dark Mirror dans la vraie vie, même si c'est vrai, parce que c'est quand même turbo dystopique, mais c'est un peu facile. C'est surréaliste. Enfin, je sais pas encore vraiment quoi en penser. C'est intéressant de toute façon parce que ça immerge la société chinoise moderne. Donc, rien que pour ça, c'est quand même assez intéressant. Et bon, disons que ça parle de live streaming. Mais alors, YouTube et Twitch, pardon, c'est le pipi de bébé Bullet à côté, hein. YY, ça, c'est une plateforme qui a tout compris. 1 million de streamers, 300 millions d'utilisateurs en 2015, hein, donc au moment du tournage. Et bon, entre les travailleurs pauvres et désocialisés qui mettent la moitié d'un mois de salaire de dons, des streamers à la popularité artificielle perpétuellement au bord de la crise d'un nerf, des mécènes qui font des battles de pognon pour se sentir exister, des patrons d'agences au business assez chelou, et surtout évidemment YY avec son concours annuel de popularité où tu peux acheter des voix, ça c'est du génie, hein, je veux dire, c'est acheter des voix sur la totalité de la surface de la planète, c'est considéré comme de la triche, sauf en Chine où apparemment tout le monde trouve ça normal. Tout ça laisse forcément songeur. Bon, voilà, c'est le problème, c'est donc je comprends pas tout, j'ai pas tout compris. Après, honnêtement, on s'en fout que je comprenne pas trop, tu vois, mais le problème, c'est que personne a l'air d'être heureux là-dedans, tu vois, malgré les millions qui pleuvent de tous les côtés. Donc, à voir et peut-être à méditer.
Bah écoute, j'irai regarder. J'ai l'impression que sur France Télévisions, il y a pas mal de sujets différents à regarder. Il y a les travailleurs du clic, là, je crois, qui est un documentaire qui est, si je dis pas de bêtises, hein, qui est relatif à ceux qui sont employés indirectement dans les services style Uber Eats et compagnie, donc pour les mettre un petit peu en lumière dans leur vie au quotidien. Bah, je serais curieux de découvrir si vous l'avez vu là aussi, si vous avez des réactions par rapport à ces documentaires là aussi. Les commentaires de techcafé.fr sont les plus appropriés pour suivre vos réactions. Moi, je voulais, Guillaume, un an après, rebondir un petit peu sur la Ligue du LOL. Tu sais, on en avait parlé l'an dernier.
Oui, je me souviens. Oui.
Et j'ai toujours gardé un sentiment un petit peu amer de cette histoire-là. Donc, pour rappeler, hein, la Ligue du LOL, c'est le nom d'un groupe Facebook qui a été créé dans les années 2010 et qui rassemblait plusieurs personnes qui étaient liées à l'univers du journalisme, on va dire le milieu du journalisme parisien, et qui ont été incriminés pour des motifs de harcèlement auprès de plein d'autres personnes, en particulier sur la sphère Twitter. Et évidemment, c'est des personnes qui ont été listées, un petit peu affichées dans le cadre de cette information-là et qui ont eu pas mal leur vie bouleversée. Alors évidemment, dès qu'on a ça en tête, on pense systématiquement aux victimes des harcèlements. Et le problème, c'est que c'est peut-être un peu plus facile de dire ça maintenant, un an après, mais c'est quand même des choses que je commençais à émettre à l'époque. C'est que je trouve que le jugement qui est fait des personnes qui sont concernées, je le trouve particulièrement dérangeant parce que c'est justement pas un jugement mais un lynchage médiatique. Je remets absolument pas en cause et je crois que je tenais à peu près mot pour mot ces mêmes visions il y a un an dans le podcast. Je remets pas en cause évidemment la souffrance de personnes qui ont pu souffrir d'invectives sur Twitter. Ce qui me gêne vraiment, c'est de considérer pour acquis que ce sont les personnes qui font partie de ce groupe qui étaient des harceleurs, qui étaient sexiste, raciste, alors que ça me semble être un parti pris extrêmement hâtif qui a évidemment pas pu laisser place à un vrai jugement. Ces personnes ont été de toute façon pénalisées de par leur métier. Je pense que leur quotidien reste très difficile. Il y a un an, je disais aussi que j'espérais que aucun ne passe un acte pour mettre fin à ses jours parce que ça doit être particulièrement difficile. Encore une fois, je souligne que je ne dénature pas ce qu'ont dû vivre plein de personnes qui ont subi des harcèlements sur Twitter, que ce soit de la part de la Ligue du LOL ou pas. Mais je suis hyper gêné par le mouvement de foule qui a été occasionné dans la sphère des réseaux sociaux à ce sujet-là. Et aussi, avec le recul, on commence à avoir maintenant des témoignages de la manière dont ça a été traité dans les rédactions par les journalistes, où justement le travail journalistique était très 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 critiquable. Il n'y a sans doute pas eu un éclairage avancé qui essayait d'explorer un petit peu la vision de tout le monde, et les choses sont très aparties. Et même aujourd'hui, il me semble très très difficile de remettre en question le fait que ces personnes-là aient commis des actes qu'on puisse considérer comme répréhensibles. Pourtant, on manque de faits, on manque de preuves, on manque évidemment par-dessus tout d'un jugement, et tout ça me laisse un sentiment très très amer, et je me dis encore heureux que ça n'ait même pas pu aller encore plus loin. Et j'espère que les choses vont se tasser et qu'on pourra dans le temps discuter un peu plus sereinement. C'est peut-être un petit peu utopique de considérer que les foules peuvent discuter sereinement à l'appui d'un réseau social comme Twitter. Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses, et si tu as souvenir de ces sujets-là, quel sentiment tu en as avec un an de recul?
Je me suis pas vraiment réintéressé. Hein. Après, c'est vrai qu'espérer que sur Twitter ça se passe mieux et qu'il y ait un discours apaisé, oui, effectivement, je pense que c'est un petit peu
utopique. Un peu facile, ouais.
C'est un petit peu utopique sur Twitter, c'est un petit peu utopique, oui, malheureusement.
La raison, je passe complètement à côté de mon bonus, puisque là je fais part de mon sentiment. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que Vincent Glade, qui est le créateur du groupe Facebook en tant que tel, a écrit un long billet Medium. Il y a marqué 63 minutes de lecture sur Medium. Vous avez l'article dans les notes de l'émission. Personnellement, je me lance, hein, je le trouve évidemment très très bien écrit, et je trouve qu'il soulève des questions. Il n'y a pas de réponse facile. Je crois qu'un sujet comme celui-ci ne se prête pas à avoir des réponses faciles. En tout cas, il soulève des questions qu'on ne s'autorise peut-être pas assez à se poser, et je trouve ça dommage. Donc si vous avez un petit peu l'opportunité d'aller lire et de vous poser la question, et peut-être aussi de vous dire, sur Twitter comme sur plein de canaux de communication, ça vaut peut-être le coup de pas prendre pour argent comptant les réactions qui passent, et de pas non plus reprendre à votre nom ce qui est formulé par d'autres, aussi massivement soit-il. À la fin de cet épisode, c'est le moment parfait, si vous n'avez écouté jusque-là, pour vous rappeler que Tech Café est disponible en financement participatif sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Il y a des choses qui vont se passer sur Patreon cette année, hein. Ils ont annoncé plein de petites choses plutôt cool. Donc profitez-en. Et puis surtout, si vous aimez Tech Café, si vous aimez l'esprit éditorial de Tech Café, je ne peux aussi que vous inviter à vous rendre dans les notes de l'émission, mais aussi dans le site techcafé.fr, où il y a tous les liens qui vont bien, pour vous abonner à la newsletter qui, semaine après semaine, est diffusée par des personnes qui sont un peu privilégiées, hein, de voir les news sélectionnées par Guillaume Poggiaspala avec le traitement éditorial qu'il en fait. C'est quelque chose qui arrive en début de week-end, quand j'ai pas du retard à cause de mes travaux pour envoyer ça dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est un petit rappel de ce qu'est Tech Café, et un petit complément de news qu'on n'aborde pas dans le podcast, qui sont traités avec le regard, une fois de plus, rédactionnel éditorial de Guillaume Poggiaspala. Rendez-vous sur techcafé.fr/newsletter. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on veut converser avec toi, te faire remarquer que tu as dit des bêtises, ou au contraire encenser les chouettes propos pour lesquels on te rejoint?
Alors, pour me faire remarquer qu'on dit des bêtises, vous pouvez pas. Et sinon, pour le reste, non, évidemment, vous pouvez de toute façon, pour tout ça, vous pouvez aller dans les commentaires de Tech Café sur le Telegram. Si j'ai dit des bêtises, je serais ravi effectivement de corriger tout ça à l'écrit et à l'oral la prochaine fois.
Merci beaucoup Guillaume pour toute la préparation. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr avec tous les liens vers les contenus qui peuvent sortir en ligne où j'officie, et les différents liens vers les canaux de réseaux sociaux où vous pouvez interagir avec moi. Merci beaucoup de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.